Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadra, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Estelle, infirmière anesthésiste de formation, on surnomme sa profession de couteau suisse de l'hôpital. Je suis ravie de présenter cette nouvelle facette du métier. Bonne écoute! Bonjour Estelle!
Bonjour Marielle!
Comment tu vas?
Mais ça va bien et toi?
Ça va très bien, je te remercie. Alors Estelle, nous sommes reliés par une personne qui est très proche de toi, avec laquelle moi j'ai travaillé pendant quelques années. Il va quand même falloir qu'on en parle de Patricia, hein?
Oh non!
J'ai démarré! Par elle. Non, on n'est pas obligé d'en parler.
bien sûr, de toute façon, j'allais en parler. Donc.
Alors, je vais te laisser présenter cette personne qui nous relie et qui fait qu'on se connaît aujourd'hui. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de toi, de sa part à elle, et en très bien, je te rassure.
Merci.
Et je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous présentes ton métier d'infirmière anesthésiste, mais pas que, parce qu'écoute, je crois que tu as des milliards de choses à nous raconter, donc je n'en dis pas plus, moi j'ai introduit l'épisode et maintenant c'est à toi, on t'écoute. Qui es-tu?
Ok, ça marche, merci beaucoup. Je vais commencer par pas être très originale en disant que j'ai le trac, mais je sais que ça va aller beaucoup mieux d'ici quelques minutes.
Exactement.
Voilà, ça c'était le préambule. Écoute, sinon moi j'ai 43 ans, je vis avec mon conjoint et ma petite fille de 4 ans en Haute-Savoie, sur la rive gauche du lac Léman, région limitrophe avec la Suisse, où j'ai par ailleurs grandi depuis l'âge de 4 ans. Je parlerai de la personne qui nous concerne un petit peu plus tard.
Très bien, t'as raison, faut laisser un petit peu de suspense. Alors, mais je pense qu'on va finir par en parler assez vite, parce que moi, ce qui m'intéresse,
oui,
c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers le métier d'infirmière, comment tu as entendu parler du métier, pourquoi ce métier, pourquoi ce choix, est-ce que c'était une évidence pour toi, est-ce que au contraire, c'est quelque chose que tu rejetais en bloc pendant ton enfance, voilà. J'aime bien avoir la genèse du projet, moi.
Alors, écoute, moi, j'ai pas de souvenir précis de quand exactement. Enfin, si, bien sûr, je vais dérouler le fil, mais en tout cas, quand j'étais petite, je disais que je voulais être fermière. Donc, c'est pas tout à fait infirmière, mais fermière ou maîtresse d'école. Mais en fait, c'est passé très vite. Et c'est vraiment, au pied du mur qu'il a fallu se décider, en fait, en classe de terminale. Je me voyais pas trop sur les bancs de la fac. J'aurais pas été très productive, livrée à moi-même. Je me voyais pas. Pourquoi faire? Je savais pas trop. Et je savais une chose, c'est que je voulais faire des études qui arrivent rapidement à un métier concret. Je voulais être rapidement autonome, notamment financièrement. Et ma mère était infirmière. Donc, la personne que tu connais, c'est elle, c'est Patricia. Elle ne m'a pas spécialement encouragée dans cette voie. Je me souviens que petite, on lui rendait visite les week-ends sur ses lieux de travail. Quand j'étais toute petite, elle travaillait dans un service d'urgence. Et puis, quand on a déménagé dans cette région, dans laquelle j'habite toujours. Elle travaillait à quelques kilomètres de la maison, dans un service de soins intensifs. Et elle a changé de boulot quand j'avais 7-8 ans. Elle s'est mise à... Enfin, elle a changé dans ce service que tu connais bien, donc la salle de réveil. Et puis, je lui posais des questions. Naturellement, je voulais comprendre. C'est à cet âge qu'on veut savoir... qu'est-ce que font les parents? Enfin, tu sais, c'est à l'école, on pose des questions. Et puis, c'est vrai, papa, maman, ils partent toute la journée, on ne sait pas trop pourquoi faire. Donc, je lui demandais en quoi consistait son travail. Et puis, elle me disait qu'elle réveillait des gens après leurs opérations. Donc, moi, je lui demandais naïvement, mais comment tu les réveilles? Comment on réveille des gens? Et puis, bon, elle, 13 second degré, j'étais choquée, je me souviendrai toute ma vie de sa réponse. Elle me dit, je leur jette des seaux d'eau ou je leur donne des claques. Voilà.
Et pourquoi est-ce que je suis absolument pas étonnée de cette réponse?
Donc en fait, j'ai le souvenir de pleurer beaucoup quand elle travaillait, quand elle partait travailler pour la nuit. J'avais peut-être entre 4 et 8 ans, elle a été veilleuse de nuit pendant longtemps et puis je voyais que le mauvais côté des choses. Je voyais aussi que mon père, il rusait de créativité pour nous occuper quand elle dormait le matin, les samedis, les dimanches. On a arpenté le musée d'histoire naturelle du coin pendant des heures avec lui. Donc, elle parlait pas trop du travail à proprement parler, mais plutôt de la vie du service. Elle voyait beaucoup ses collègues. Ses collègues venaient à la maison. Et puis, je comprenais qu'il y avait une très, très chouette ambiance de travail. Et puis, surtout, j'ai compris aussi quand on se retrouvait, enfin, quand les parents ou les enfants, les copains, ils demandent le métier des parents, on commence à se poser des questions. Et quand je disais que ma mère était infirmière, je ressentais que ce travail-là, il suscitait le respect de la part des maîtres, des maîtresses et puis des autres parents. C'est vraiment en classe de terminale, quand ça faisait quelques années qu'elle travaillait en salle de réveil, et qui, moi, il fallait que je me décide pour la suite. J'étais en bac économique et social à l'époque. Et j'ai demandé à l'accompagner une journée pour voir un peu sur le terrain comment... La salle de réveil telle que tu l'as connue, elle était attenante au bloc opératoire. Et comme tu sais, le matin, avant que les premières interventions se terminent, il n'y a pas grand... Enfin, si, bien sûr, il y a des choses à faire, mais il n'y avait pas de patients. Et naturellement, elle m'a confié entre les mains d'un vieil anesthésiste. Et je me suis retrouvée dans cette toute petite pièce avec lui, avec un patient. Et puis, j'étais là en observatrice et je l'ai regardé administrer les drogues. Bon, je saurais plus tard qu'on appelle ça les drogues, les médicaments. Et j'ai été fascinée par ces histoires. Alors, pour capter mon attention, il a su aussi y faire. Il m'a parlé des curares, des Indiens... des choses comme ça. Et puis en fait, j'étais fascinée par le fait que le patient à qui il parlait, qui était parfaitement conscient, tout d'un coup, il n'est plus là. Il n'est plus là, bien sûr, il est là, mais il n'est plus conscient. Et c'était simple. Et puis, il avait une grande humilité, ce monsieur. Il enchaînait ses gestes. C'était technique, c'était précis. Et j'ai été fascinée. Et puis un petit peu plus tard dans la journée, j'osais pas tout de suite aller dans la salle d'opération. J'étais impressionnée, enfin j'osais pas. Et puis donc j'ai demandé à maman de me tenir par la main, littéralement. Et elle m'a accompagnée jusque de l'autre côté du champ pour voir. Alors je me souviens très précisément de l'odeur, cette odeur particulière de, tu sais, du bistouri électrique là qui est au contact de la ouais. graisse et qui fait comme une odeur de cochon, comme ça, cochon grillé. Voilà, ça, c'est vraiment le... Tu sais, c'est un souvenir olfactif, comme ça. Et j'ai suivi plusieurs interventions cette journée-là. Et à la fin de la journée, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et j'ai demandé à ma mère, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse comme étude. Alors, elle me dit, ma fille, je ne veux pas te décourager, mais c'est où tu fais médecine. Ouais. Ce qui n'était pas vraiment une option pour moi. Parce que, comme tu sais, quand on fait un bac économique et social, c'est pas tellement la voie qu'on est... Enfin, on n'est pas sur cette voie-là. Et du coup, elle m'a dit, tu peux être infirmière et puis après, te spécialiser, devenir infirmière anesthésiste. Donc, en fait, j'ai voulu être infirmière anesthésiste avant d'être infirmière.
C'est ça. Dès le départ, la vocation, elle était toute trouvée, elle était tracée vraiment jusqu'à la fin, quoi.
Oui. Dès le départ, je savais ce qu'il fallait que je, enfin, ce que je voulais faire. Du coup, j'ai vraiment tout mis en œuvre. Je savais qu'il fallait passer les étapes. Et puis, donc, j'ai passé le concours l'année du bac. J'ai été reçue au concours de l'IFSI, donc l'Institut de formation en soins infirmiers du plus proche où j'habitais. Et puis j'ai commencé, donc j'ai eu le bac, j'ai commencé au mois de septembre à l'école d'infirmière. Et puis c'est une alternance de stage pratique et d'école à ce moment-là, parce que je sais que les études après ont changé, mais à ce moment-là, en 97, c'est un mois d'école, un mois de stage. On est dans le bain au bout de 2 mois, au mois de novembre, on a le premier stage. Pour ma part, c'est en psychiatrie, donc là j'ai la grosse claque, un univers complètement, complètement fou, complètement à part. Et puis c'était flippant, mais ça m'a fascinée, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce stage, vraiment, c'était une vraie découverte.
Ce premier stage en psychiatrie, parce que moi j'en ai un souvenir impérissable, et c'est quand même, c'est un stage qui peut être... Alors, c'est un peu qui tout double, moi, de ce que j'ai vu dans mon entourage. La psychiatrie, soit on adore, soit on déteste, mais ça peut être un peu traumatisant pour un début de formation. Comment ça s'est passé pour toi ?
Oui, d'autant plus qu'on est à l'âge, quand on commence jeune, on est à l'âge de l'entrée dans la psychose, quoi. Donc moi, j'avais des patients qui étaient guère plus âgés que moi et qui rentraient dans ces trucs. Donc moi, j'avais l'âge encore de rentrer là-dedans. Donc en fait, je lisais beaucoup, je lisais le week-end et je me disais, mince, mais si ça se trouve... Je suis malade en fait. Donc, grosse remise en question, gros doute. Voilà, mais c'était fascinant. C'était un service fermé en plus, donc impressionnant. Les clés, tu sais, tu peux. Il ne faut pas que tu sois tout seul. Tu ouvres, tu fermes, tu passes ta journée à sortir le trousseau. Mais une équipe absolument géniale. Non, j'étais super attachée, je restais plus tard, je faisais mes heures des extras, enfin j'adorais quoi, c'était vraiment chouette. Donc là je me disais, tiens, pourquoi pas déjà, enfin voilà, pourquoi pas.
Et est-ce que pendant tes études, tu touches du doigt quand même la réanimation, la salle de réveil, ce genre de service, t'arrives à orienter tes stages ou est-ce que ça se fait... est-ce que ça se fait dans le cursus, quoi ?
Alors, oui, ça se fait dans le cursus, mais un petit peu plus tard. Donc, je continue... en fait, je prends ce qu'on me donne. Globalement, la première année, on est là pour acquérir les gestes de base, les soins de base, de confort. On fait le travail de l'aide-soignante. Donc, je sais que tout vient à point qui sait attendre et qu'il faut être patiente et puis qu'il faut apprendre et puis monter les marches. Enfin, disons, acquérir les choses et puis ça en amène des autres. Mmh. Voilà. Donc, en première année, pas de service comme ça. En deuxième année, je pars en stage optionnel l'été. Tu sais, on avait droit de partir à l'étranger. Je me souviens que ma mère voulait m'envoyer à Beyrouth. À l'époque, je doutais de son amour. Non, je plaisante, maman, si tu m'entends. Mais vraiment, voilà, elle aurait voulu faire tout ça. Elle aurait voulu faire de l'anesthésie, de la médecine de guerre et tout ça. Donc, elle projetait un petit peu sur moi. Et puis, le Liban était en reconstruction à ce moment-là. Il sortait de la guerre. Mais moi, j'ai dit je préférais aller au Canada. Hein. Mon oncle habitait au Canada. Puis, quitte à observer, c'était un stage d'observation. J'ai demandé à aller en observer en psychiatrie. C'était super. Donc là, j'ai appris toutes les insultes en québécois grâce aux patients, jouer au ping-pong. Et puis des pratiques complètement différentes d'ici. Il y avait des électrochocs à l'époque. Bon, ça revient maintenant, mais disons que ce n'était pas le sujet trop en France à ce moment-là, en tout cas pas dans mon entourage. Et donc, c'était super. Et puis, en troisième année, quand même, je fais un premier stage en réa. Je ne sais plus quand c'était, mais enfin, au début de la troisième année, qui s'est très bien passé. Donc là, enfin, je touchais du doigt et ça confirmait ce vers quoi je me dirigeais. J'ai demandé à faire mon stage optionnel d'été aussi dans un service de soins intensifs. Donc là, j'ai passé la frontière. Je suis allée donc à l'étranger, mais tout à côté de la maison, en Suisse. Et il se trouve que c'était dans le service où travaillait ma mère quand j'étais toute petite.
D'accord.
Donc, ça ne se savait pas trop. Mais c'était drôle parce que ça s'est su. Certaines personnes venaient me voir en me disant « Mais je t'ai connue, tu avais des couettes, c'est drôle. » Enfin, voilà. Donc, rencontrer des gens qui travaillaient avec ma mère des années auparavant.
Et est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens peut-être qui connaissent pas forcément le milieu médical, mais qu'est-ce qui fait que ces services réanimation soins intensifs, salle de réveil ou l'anesthésie au bloc opératoire, qu'est-ce que ces services ont en commun ? Je parle de ce que je sais, mais moi quand j'expliquais aux gens je travaille en salle de réveil et en soins intensifs, on me disait... ça n'a rien à voir. Et en fait, ça a beaucoup, beaucoup de choses en commun. Donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tous ces services, ils sont quand même un peu connectés ?
Ça traite l'immédiateté du soin constant à la personne. En deux mots, c'est action-réaction. C'est des soins intenses. Constant à la personne, des gens qui sont en situation de vulnérabilité, qu'il faut assister en fait, enfin assister au sens, il faut leur apporter des soins immédiats, de confort, de sécurité pour assurer leur survie, quoi. Donc, ce qu'il y a de commun là-dedans, c'est à part action-réaction, je vois pas.
Non, mais c'est bien résumé.
C'est intense, quoi. C'est. Je sais pas si je m'exprime bien, mais c'est l'intensité du truc, quoi.
Et après, techniquement, enfin, dans le quotidien, ce sont des médicaments qu'on utilise dans les quatre services de façon un peu similaire. Ça reste de la prise en charge aiguë, voilà. D'endormir quelqu'un, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas un mélange de produits, c'est beaucoup beaucoup plus subtil que ça. Et finalement, ce que t'appréciais dans l'anesthésie, voilà, se retrouve dans plusieurs services, dans plusieurs lieux d'exercice par la suite.
J'ai surtout compris qu'en fait, avant de toucher du doigt de l'anesthésie, il fallait comprendre. Enfin, il faut comprendre ce qui se passe. C'est un peu à l'envers ce que je vais dire, mais il faut comprendre ce qui se passe après pour voir toucher du doigt avant. Enfin, je sais pas comment. Les deux sont liés, c'est-à-dire que maintenant, en faisant de l'anesthésie, évidemment que je comprends ce qui se passe après, mais en m'occupant des gens après, je pouvais appréhender, je pouvais avoir une idée de ce qui se passait avant. Donc, et puis, c'est une expérience pour moi, c'était indispensable de maîtriser ça avant d'aller plus loin. De toute façon, tu ne peux pas le faire, tu peux pas faire autrement, tu ne peux pas apprendre directement l'anesthésie. Donc, c'était logique, quoi. C'était la continuité, c'était pour retourner à la source, quoi.
Et du coup, une fois le diplôme en poche, pour toi, le projet professionnel était toujours aussi limpide. Enfin, c'était toujours une évidence pour toi que tu voulais tendre vers ça.
Alors oui, j'ai fait quand même un dernier stage en psy qui m'a beaucoup plu avec encore une autre approche à l'étranger, donc en l'occurrence en Suisse. Et là, je me suis dit, c'est vrai, qu'est-ce que entre les deux, mon cœur balance, la psy, l'anesthésie. Mais en fait, non. Dans ma tête, je me suis dit, ce sera bien plus évident de passer de l'anesthésie à la psy peut-être un jour que l'inverse.
Ouais,
je ne me voyais pas commencer à travailler en psy et puis faire de l'anesthésie après. Donc non, mon projet, il était toujours très clair. Donc très rapidement, j'ai postulé dans l'hôpital universitaire du coin, à l'étranger en Suisse. J'ai quand même travaillé quelques mois dans l'hôpital où j'étais aide-soignante, par ailleurs, pendant mes études, en deuxième et troisième année, j'ai demandé à être au pool en sortant du diplôme pour pouvoir voir un maximum de choses. Et après, j'ai fait quelques mois d'intérim, surtout la nuit, où j'ai cru que je perdais mon diplôme. Je me suis mise en danger. C'était, tu sais, dans les cliniques privées. Et puis, c'était pas du tout confortable. Donc, J'ai pu commencer vraiment quelque part en CDI. J'étais contente. Donc, 6 mois après mon diplôme, je traverse la frontière et le temps que les choses se mettent en place administrativement. Et il fallait postuler, il fallait donner ses vœux, enfin, entre guillemets. Et puis, j'ai postulé en salle de réveil ou aux soins intensifs. Mais je ne savais pas qu'il y avait une différence notable, c'est que dans cet établissement-là, il est proposé une formation spécialisée en soins intensifs que je ne voulais absolument pas suivre, puisque moi, mon projet, c'était l'anesthésie. Donc, j'ai décliné la proposition parce qu'il y avait une telle hémorragie, un tel turnover des infirmières de service qu'ils embauchaient facilement, en tout cas à cette époque-là, les jeunes diplômés pour aller dans ce service. Et j'ai compris que c'était pas la même voie, si tu veux, que l'anesthésie. Donc j'ai dit non, moi je veux faire de l'anesthésie. Donc on m'a dit non, alors là on rentre pas comme ça en salle de réveil, on rentre pas comme ça en anesthésie. Il faut d'abord commencer dans une unité de soins. Donc on m'a proposé la médecine, la chirurgie. Donc j'ai demandé à aller en cardiologie parce que j'avais une affinité particulière. Puis je savais que ça allait me servir pour la suite.
Clairement.
Donc j'ai commencé en cardiologie, voilà. Et puis ma chef était au courant de mon projet professionnel, donc elle, elle m'encourageait à aller passer une journée en salle de réveil, me faire connaître. Là, j'ai pris la douche froide, la chef du réveil m'a calmée direct en me disant que bah, je devais patienter, que je devais faire mon expérience, que je devais faire mes armes pendant au moins quelques années. Et puis, au bout de quelques mois, il y a quand même des postes qui ont été créés parce que l'idée, c'était de créer une équipe fixe d'infirmiers de salle de réveil. Donc, j'ai postulé, j'ai harcelé littéralement la chef du réveil. Et puis, un an et demi plus tard, 17 mois précisément de médecine, et j'ai intégré la salle de réveil.
Eh ben,
et là,
chapeau.
La chef m'a dit clairement, tu rentres en salle de réveil, c'est pour y rester, c'est pour faire partie de l'équipe. Il n'est pas question que tu passes le concours en douce derrière mon dos, je te mettrai des bâtons dans les roues. Donc, ce n'était pas du tout mon intérêt. Puis moi, j'étais contente, j'étais plus pressée, j'avais un pied dedans. Je voulais juste être au réveil, je voulais juste être là, quoi.
Donc, cette chef, elle te dit, voilà, faudra faire tes armes en salle de réveil pendant une période donnée. Et ensuite, l'étape suivante, c'est le concours pour un diplôme d'infirmière anesthésiste, qui est donc une formation supplémentaire qu'on suit une fois qu'on a le diplôme d'infirmière en soins généraux en poche. C'est bien ça ?
Exactement. Donc, en fait, dès que je peux, pendant ces 3 années au réveil, c'était super. J'ai appris plein de trucs. Je travaillais déjà avec ceux qui allaient être mes collègues. Après, c'était une équipe mixte. Il y avait majorité d'infirmiers en soins généraux. Et puis, il y avait des infirmiers anesthésistes qui faisaient leur tournus, on va dire, qui renforçaient l'équipe comme ça par tournus. Et puis, dès que je pouvais, j'allais au bloc d'urgence, j'allais les week-ends, la nuit, puisque évidemment, la journée, il faut sortir le programme, les gens viennent, on n'a pas le temps de faire autre chose que son travail. Mais la nuit, quand il y avait des pauses, quand c'était plus calme, je demandais à aller avec ces infirmiers, puis j'allais au bloc opératoire, et puis je m'intéressais, et puis voilà, j'étais curieuse, voilà. Et j'en profite aussi pour dire que à cette époque, j'ai demandé à suivre une formation qui s'appelait « Impact de la voix dans la communication professionnelle ». Parce que je m'étais déjà rendu compte que, au-delà de savoir faire des gestes techniques, c'était primordial de savoir parler aux gens. Et en fait, c'était les prémices de ce qui m'intéressera plus tard. Et j'en parlerai un petit peu plus tard, mais c'était l'hypnose, en fait.
Ah, génial.
Donc, j'ai fait cette petite formation de 2 jours. Hein. C'était juste une petite formation, une mise en bouche comme ça de 2 jours. Et puis, plus tard, après, j'ai développé ça. Enfin, j'en parlerai après. Et effectivement, au bout de 2 ans, ma chef m'a autorisé à passer le concours. Elle m'a donné le feu vert en mettant un petit peu la pression. Elle m'a dit, t'as intérêt à faire honneur à l'équipe du réveil.
Oh, c'est horrible.
Ouais, c'était pas très sympa. Parce qu'il y avait eu quelques déboutés avant moi. Et puis, c'est vrai que le fait d'être connu, c'est à double tranchant. Si tout roule, si c'est OK, bon, ça va aller. Mais si t'es le rigolo de la bande, enfin... Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas un bon élément, voilà. Donc, j'avais cette pression. Je passe le concours interne. Donc, c'est un concours. Je précise que ça se passe comme ça dans l'établissement où je travaille. C'est un concours interne, mais qui est ouvert aussi à l'externe. Et puis, on était entre 25 et 30. Je me souviens pas exactement du nombre. Les profils étaient très différents. Les gens postulaient de partout dans l'hôpital, des urgences, des soins intensifs, de médecine, de chirurgie, partout. Et moi, je suis la seule du réveil. Et il n'y avait que 4 places pour la formation.
Ah, ouais.
Donc, ça n'a rien à voir avec les amphis qu'on entend en France, où ils sont 80 par amphi. Je considère que je suis privilégiée. C'est une petite formation, une petite... structure, on est bien encadré, on est 4. Et le quota des gens en formation est en fonction des besoins du service. Et en l'occurrence, à cette époque-là, l'effectif est très, très stable. On s'y sent bien en anesthésie, donc on y reste. Et donc, c'est les départs en retraite qu'il faut remplacer. Donc, cette année-là, c'était 4. Il y a environ... 90 infirmiers dans l'équipe, dont 70 infirmiers anesthésistes, donc mm-hmm. IAD français, enfin en France, on va dire, l'acronyme. Et puis, je commence la formation en janvier 2006. C'est une formation en cours d'emploi qui dure 2 ans, donc jusqu'en décembre 2007, moyennant, je suis redevable à l'hôpital, je signe un contrat qui dit que si je ne rends pas 2 années à l'hôpital, je leur dois des sous, quoi. Mmh. Mais je sais qu'en France, c'est différent. Il y en a qui s'autofinancent, il y en a qui sont financés par un hôpital. Je dis c'est différent.
Oui, mais c'est une situation qui existe en France aussi, ouais, de devoir rendre des années d'exercice exact. Derrière pour peu que les études aient été financées. Et du coup, toi, ça part du principe que tu exact. Restes... en place dans ton service et qu'on te, je sais pas comment dire, mais on te libère quelques journées, plusieurs journées, pour que tu puisses aller te former.
Non, je rentre en formation, c'est 2 années entre parenthèses.
D'accord.
C'est tu es en formation, ton statut c'est élève infirmier en formation. C'est
D'accord,
tu es en
okay.
formation, donc tu fais pas partie de l'effectif. Là, c'est technique, hein. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau RH, mais en tout cas, non, je ne fais plus du réveil, je ne fais plus partie de l'équipe de réveil. Je suis élève infirmière en formation, on recommence tout, on reprend ce statut d'étudiant. C'est 2 années où on est de nouveau étudiant, on apprend un autre métier. On s'endort le soir sur le canapé à 20h. On a des cours communs avec d'autres infirmiers qui se spécialisent dans d'autres domaines de soins, donc les urgences, les soins intensifs adultes et pédiatrie. On a des cours communs de physiologie en cardio, en pneumo, en neuro. Mais la particularité quand même de l'anesthésie, c'est que une infirmière, quand tu sors du diplôme, tu peux aller travailler n'importe où. Tu peux aller travailler aux urgences, tu peux aller travailler aux soins intensifs, en pédiatrie, et te former sur le tas. Et en anesthésie, tu ne peux pas. Donc, c'est obligé. Nous, on était, si tu veux, les seuls infirmiers de ces cours communs à apprendre, entre guillemets, un nouveau métier. Donc, on avait des cours spécifiques en anesthésie à 4. On apprend à intuber sur un mannequin, qui est beaucoup plus difficile à intuber qu'une vraie personne. Et puis, en fait, on est mis direct dans le bain au bloc, peut-être au bout d'une ou 2 semaines de cours théoriques. Et là, je vais faire une parenthèse sur l'anesthésie parce que j'aimerais déconstruire le mythe de l'anesthésiste qui n'a rien à faire pendant l'anesthésie et puis raconter, enfin, éclaircir ce point. Il me semblait judicieux et nécessaire de le faire.
Mais écoute,
si tu me permets.
La parole est à toi.
Donc, en fait, à l'hôpital, en tout cas dans une structure publique, il y a toujours un binôme d'anesthésie. Il y a un médecin et une infirmière anesthésiste. Alors, je vais parler indifféremment, hein, vous m'en voudrez pas, mais infirmier, infirmière, hein, c'est pas la lutte des sexes, mais c'est juste c'est pour plus de fluidité. En tout cas, ce binôme, il est là pour garantir le confort et la sécurité du patient et surtout faciliter le travail du chirurgien. Donc, il n'y a pas forcément d'infirmière anesthésiste dans toutes les structures. Il y a des endroits où il y a les médecins qui travaillent seuls. Mais dans la majorité, quand même, des établissements, ce binôme est là, il existe. Et c'est un petit peu comme le pilote et le copilote dans un avion. Mmh. On est interchangeable, on pratique les mêmes gestes, mais on n'a pas les mêmes responsabilités. Mmh. Au niveau légal, en cas de litige, en cas de procès, on a un document qui est la feuille d'anesthésie qui représente vraiment notre document légal. Et certains gestes, en fait, sont réservés aux médecins. Je les énumère, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est juste pour expliquer qu'il y a des gestes que les médecins font et tout le reste, on le fait indifféremment. Il pose ses voies centrales, les gros cathéters là qu'on met dans les grosses veines du cou ou d'ailleurs. Ils font des anesthésies des blocs périphériques, je reviendrai un petit peu plus tard. Ils font des anesthésies rachidiennes et ils pratiquent les anesthésies péridurales. Mais ça, on n'y touche pas, nous, en tant qu'infirmiers. Quoique si tu es envoyé en mission humanitaire fin fond de la brousse et qu'on t'apprend à le faire, bon bah tu le fais.
Ouais, j'imagine que les cartes sont un peu rebattues à l'étranger, mais ouais.
Exactement, exactement. Pour ce qui est du reste, vraiment, on le fait indifféremment. On a un tube, on pose les équipements, les artères, donc les cathéters dans les artères, les sondes urinaires, les sondes nasogastriques, dans l'estomac, tout ça. Voilà. En fait, en anesthésie, on a un petit peu... Je parlais du pilote et du copilote, et on a emprunté beaucoup à l'aéronautique. On s'est inspiré beaucoup pour la sécurité. Et on parle beaucoup de checklists, de procédures, d'algorithmes. Et en fait, on a un arbre décisionnel constamment dans la tête. Voilà. Et une journée type, si ça intéresse.
Complètement. Oh, oui, vas-y, je t'en prie. Ah, bah, on a la meilleure pour nous en parler. Alors oui, avec plaisir.
Alors en fait, on arrive le matin au bloc opératoire ou dans n'importe quelle autre salle d'examen. Et puis, on fait ce qu'on appelle une ouverture de salle. Donc, on ouvre la salle en fonction, enfin, selon une feuille de procédure qui est spécifique à la salle où on est et puis qui énumère tous les points de contrôle. Alors, ça va de la pression murale des gaz. On doit contrôler à quelle pression arrive le protoxyde d'azote, l'oxygène, l'air. Et puis, ça passe par la présence du matériel qui est indispensable, les aspirations, les médicaments d'anesthésie, d'urgence, les quantités. Et puis, on doit aussi contrôler la machine qui va permettre d'assurer la respiration du patient, la ventilation, donc le respirateur. Et puis, ces machines, elles ont beau être de plus en plus performantes et travailler toutes seules, en fait, c'est quand même l'humain qui la contrôle et puis qui doit savoir dans quel état elle est avant de commencer la journée et puis éventuellement corriger les dysfonctionnements, les pannes. On doit être capable de détecter ça. En fait, quand vous rentrez dans un avion, le pilote, il est là bien avant vous pour checker et puis remplir son petit papier pour assurer la sécurité de ses passagers. Alors nous, on a un seul passager, on a cette chance-là. Et quand ce passager arrive, et quel passager, quand il arrive et qu'on s'est présenté, et puis qu'on vérifie avec lui pour quel motif on le prend en charge, eh ben on décide avec le médecin, on décide de qui fait quoi, et puis chacun connaît sa partition, sa place. On se répartit sans même se parler, en fait. Donc, selon l'examen ou la chirurgie, bah, y a plusieurs types d'anesthésie possibles. Il y a l'anesthésie générale, donc, où le patient il dort complètement. Il y a l'anesthésie du bas du corps, l'arachéanesthésie. Et puis, il y a l'anesthésie péridurale, que les femmes connaissent si elles ont accouché grâce à cette anesthésie, mais pas que. Il y a aussi des hommes qui peuvent, à d'autres occasions, connaître l'anesthésie péridurale. Et puis, il y a toutes les anesthésies loco-régionales où le médecin, en fait, endort au plus près d'un nerf qui innerve un territoire précis du corps. Donc, ça permet vraiment de cibler. Et puis, il y a la chose la plus subtile en anesthésie, c'est... pour moi, c'est la sédation, qui est une anesthésie beaucoup plus légère, enfin, qui est une anesthésie légère, sans intubation, et qu'il faut adapter selon chaque patient pour garder les réflexes de déglutition. Parce que là, je vais vous apprendre, enfin, je prétends pas apprendre, mais je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on leur demande d'être à jeun, mais ce qu'on redoute le plus en anesthésie, c'est que le contenu de l'estomac remonte dans les voies aériennes, et ce qui serait absolument catastrophique puisqu'on peut en mourir. Et c'est la raison pour laquelle l'anesthésiste vous demande d'être à jeun quand vous arrivez à l'hôpital.
Bah ouais, c'est pas pour vous embêter qu'on fait ça. Hein.
Non, c'est pas pour vous embêter. Parce qu'il y en a qui mentent, c'est dommage. C'est dommage de mentir à son anesthésiste, je le répète. Ne mentez pas à votre anesthésiste. On s'en rendra compte tôt ou tard. C'est ça. Puis, la dernière anesthésie, c'est l'hypnosédation. C'est une petite sédation. Donc, en fait, il n'y a pas de petite anesthésie. Mais enfin, c'est quand on donne un petit peu de médicaments pour dormir et qu'on couple ça avec l'hypnose, en fait. J'en parlerai un tout petit peu plus tard.
Est-ce que je peux me permettre de te poser une question pour répondre à... Moi, c'est une question qu'on m'a souvent posée. pourquoi est-ce que quand on va prendre un cas classique, concret, comme ça, tout le monde s'y retrouvera. Demain, quelqu'un doit se faire opérer de l'appendicite. Pourquoi est-ce que cette personne doit recevoir des curares qui vont paralyser les muscles du corps, y compris les muscles respiratoires, ce qui va donc nécessiter une intubation et donc une ventilation artificielle. Mais pourquoi est-ce que le cœur continue de battre? C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois. Alors moi, j'ai la réponse, mais je veux bien qu'une professionnelle comme toi nous l'apprenne.
Oh purée, je ne me suis pas replongée dans les bouquins de physiologie, mais je peux te dire que c'est lié à la structure du muscle elle-même. Parce que le curare agit sur certains types de muscles et pas sur d'autres. Donc, le cœur, en l'occurrence, le curare n'a pas d'action sur le cœur.
C'est ça. Mais en revanche, on ne peut pas faire la différence entre les muscles, par exemple, abdominaux pour l'appendicite, et les muscles respiratoires qui vont aider à gonfler les poumons et à ventiler correctement. Là, on ne peut pas faire de distinguo. Donc, quand on endort les muscles, on endort les muscles respiratoires avec.
Là, c'est hyper technique, Marielle. Je ne pensais pas passer un examen d'anesthésie en parlant de ce podcast.
Non, tu vois, c'est marrant, c'est une question qu'on m'a souvent... Enfin, on ne me l'a pas posée 500 fois, mais c'est quand je raconte comment fonctionne l'anesthésie, il y a quand même des gens qui sont très perturbés par ces informations-là. Donc, voilà pourquoi on est souvent obligé de passer par la case intubation. Et c'est très important ce que tu dis aussi sur ce qui se passe dans l'estomac, parce que bien sûr, si tout ce qui est dans l'estomac arrive dans les poumons, c'est un peu plus compliqué.
En fait, la curarisation, elle n'est pas nécessaire, elle n'est pas du tout obligatoire, y compris pour intuber. On peut tout à fait intuber sans curare. Le curare, en fait, il est juste là pour faciliter le travail du chirurgien, ni plus ni moins. On se facilite la vie en curarisant, mais on n'est vraiment pas obligé de curariser, ça c'est un mythe. On n'est pas obligé de curariser un patient, même pour l'intuber. Parce qu'il y a des gens qu'on peut pas curariser et puis on peut quand même l'anesthésie, le truc c'est que c'est de la cuisine, c'est génial, on adapte la recette et on trouve la recette la plus performante, enfin la plus comment dire la parfaite recette en fonction du patient. Et puis, à chaque anesthésiste correspond une anesthésie, donc il y aura autant d'anesthésies différentes qu'il y a d'anesthésistes. On sait qu'il y a plusieurs classes de médicaments et que dans chaque classe de médicaments, on a plusieurs options. On sait qu'on doit utiliser un inducteur de sommeil, donc celui qui va induire le sommeil. On sait qu'on doit utiliser un dérivé de la morphine, un opiacé, mais qui est 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois plus puissant que la morphine. Et puis, on peut utiliser un curare. C'est vrai, dans la majorité des cas, c'est ce qu'on fait. Et à l'intérieur même de ces trois classes différentes, on a 4-5 options différentes. Donc, tu vois que la recette, elle peut être très, très variée, en fait. Et on n'aura jamais la même recette. Pour l'anesthésie générale, on se répartit les rôles naturellement. Il y en a un qui se met à la tête du patient et qui va gérer les voies aériennes. Et puis, il y a l'autre qui se met aux drogues et qui va gérer la cuisine. Il y en a un qui parle, ou les deux qui parlent au patient jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis, les choses s'enchaînent. Chacun sait ce qu'il a à faire. On apprend la séquence d'induction, qu'on appelle l'induire le sommeil. Et puis, c'est un ballet qui est très joli à regarder. On parle pas, on sait ce qu'on a à faire jusqu'à ce que tout soit mis en place, jusqu'à ce que le patient soit intubé, qu'on lui mette donc ce tube qui passe entre les cordes vocales et qu'on branche au respirateur, soit un autre dispositif qui s'arrête juste avant les cordes vocales. Et puis, tout ça, y compris donc les médicaments et le matériel, on apprend en fait à choisir tout ça en fonction de la personne, de la chirurgie, de la durée de l'intervention. On a plein de différents tubes, des sondes d'intubation, on a plein de calibres, de propriétés différentes et en fonction de leur utilité et de l'intervention, de l'examen qu'il va y avoir. En fait, l'anesthésie, c'est de la gestion de risque, c'est anticiper et puis c'est avoir toujours un algorithme constant dans la tête, un arbre décisionnel. On apprend à gérer, à anticiper les risques et les complications parce qu'il y a des complications qui sont liées à l'anesthésie selon le patient. C'est pas la même chose de se faire opérer d'une appendicite que d'une chirurgie du cœur ou du cerveau. Et puis, c'est pas la même chose quand on a quelques heures de vie, qu'on a 17 ou quand on a 90 ans. C'est pas la même chose quand on a des allergies, quand on n'en a pas. C'est pas la même chose quand on est avec une malformation. Voilà. Donc, on apprend tout ça. Et puis, pendant 2 ans de formation, on passe partout. On passe partout où peuvent intervenir les anesthésistes dans l'hôpital. Donc, on alterne, on est majoritairement sur le terrain. On nous tient la main pendant à peu près 3 mois où on n'est pas du tout lâché. Enfin, tu vois, on ne nous lâche pas comme ça. Donc, on a un binôme d'anesthésie. Enfin, en l'occurrence, moi, j'étais avec un binôme et puis on a un formateur. Ailleurs, c'est des infirmiers du terrain qui encadrent. Mais en tout cas, pendant 3 bons mois, on est constamment surveillé. On n'est pas lâché, quoi. C'est un pilote, c'est pareil. Pour apprendre à piloter un avion, il y a quelques heures de vol accompagné quand même.
Ah, mais j'aime beaucoup l'analogie avec le pilote et le copilote parce que tu vois, c'est un truc que j'ai jamais réussi à mettre des mots dessus. Mais merci pour ça parce que c'est très très vrai. Et c'est pas le magicien et l'assistant du magicien parce que ça fonctionne pas, c'est vraiment pilote et copilote.
Oui, c'est ça.
Même dans l'exécution des gestes, etc., c'est très bien résumé. Et est-ce que toi, pendant la formation, tu t'y retrouves dans le sens où. Alors, tu avais déjà cet aperçu du métier par ta maman, mais est-ce que tu te sens à ta place? Est-ce que tu es contente de ce que tu apprends? Est-ce que ça t'épanouit? Tu es dans quel état d'esprit pendant ces 2 ans?
Ah, je suis ravie, ça y est, je suis à ma place, je fais enfin ce que je veux faire. Ouais, je touche du doigt ce que j'ai toujours voulu faire. C'était mon projet. C'était une vocation. J'avais vraiment... depuis l'âge de 18 ans, je voulais faire ça. Et puis, en décembre 2007, j'ai 28 ans. Donc, 10 ans plus tard, je suis ce que je voulais être. Donc, j'étais super contente. J'étais à ma place. Et puis, j'avais l'impression de... Comment dire? Alors, c'était entre guillemets plus simple. Je ne sais pas, hein, mais... pour moi, qui faisait déjà partie de l'équipe, c'était... j'apprenais, j'étais apprenante, j'étais élève infirmière, enfin, j'étais étudiante en anesthésie, mais il y avait beaucoup de bienveillance. Et puis, j'étais sûre de ce que je voulais faire, donc c'était évident, en fait. Pendant ces études, on apprend à perfuser. On apprend à préparer un plateau de médicaments, on apprend les différentes étapes. Petit à petit, on nous... Et puis aussi, chose importante, le matériel, on apprend à monter et démonter. On apprend une quantité de choses incroyables. Et puis, on a affaire à un matériel qu'on ne connaît pas du tout, ni en salle de réveil, ni ailleurs. On apprend des... plein de... Les gens ne se rendent pas compte, mais dans ce cockpit-là, dans tous ces appareils d'anesthésie, il y a plein de choses pour monitorer, plein de choses pour surveiller la profondeur du sommeil, pour la curarisation, puisqu'on en parlait. On apprend à mettre des capteurs de surveillance dans tous les orifices du corps humain. J'ai, pardon de le dire, mais... c'est vrai, c'est la réalité.
C'est tellement vrai.
Non, mais... voilà. Et puis, en fait, surtout, on est responsable de tout ce qui se passe quand le patient, il dort. On doit être vigilant à tout. Mm. Il faut comprendre que le patient, il ne peut pas se manifester quand il dort. Il est mou. Il est super vulnérable. Donc, on est son ange gardien, littéralement. Et on doit veiller sur lui. On doit s'assurer, sa survie, sa sécurité. Un patient, quand il s'endort, il est allongé comme dans un lit, mais en fait, il peut se retrouver sur le ventre pour une intervention sur la colonne. Il peut se retrouver en position gynécologique. Et puis, il peut même avoir la tête dans le vide sur une tétière vissée dans le crâne. Donc, il y a plein de choses qui se passent et sur lesquelles on doit porter toute notre attention, voilà, constamment.
Mais j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé aussi de toutes ces histoires de procédures. C'est important de le dire aussi, il y a peut-être des gens qui s'imaginent que si on arrive alors, au bloc opératoire, dans un service d'urgence, peu importe, que ça va être la panique parce qu'il se passe telle ou telle chose, mais voilà, au même titre qu'un pompier va se former toute sa vie à des incendies, ce genre de choses, et ben une infirmière anesthésiste, un médecin anesthésiste réanimateur, toute sa vie va se former, se reformer aux gestes d'urgence, aux techniques d'urgence, etc. Donc, alors bien sûr, on est toujours plus à l'aise dans quelque chose qui est planifié, programmé, etc. Mais voilà, les équipes, elles se forment sans cesse à oui, gérer tout ce qui sort des clous, entre guillemets.
Exactement. Et j'ajoute même que on fait comme les pilotes, de la simulation. On doit, c'est, ouais. Enfin, si on a la chance de travailler dans un centre où il y a un centre de simulation, en l'occurrence là où je suis formée, on avait cette chance-là. Donc c'est la reproduction d'une salle d'opération avec un mannequin qui parle, enfin qu'on peut faire parler, qui est connecté à tous les appareils d'anesthésie. C'est vraiment une reproduction d'une vraie salle d'opération. Et puis, on rentre là-dedans, on fait des jeux de rôle. Donc, il y a quelqu'un qui va jouer l'instrumentiste, un autre le chirurgien. Et puis, on est balancé là-dedans. On ne sait pas du tout ce qu'on va avoir comme scénario. On sait que ça va partir en cacahuète à un moment, mais on ne sait pas comment. Et puis, on est filmé, on a un microphone sur nous. Et puis, après, on est extrait de la situation. Donc, jusqu'à ce que ça parte en cacahuète et puis qu'on gère et puis qu'on fasse... toutes les choses attendues ou pas. Et après, on est extrait de la situation et on décortique. On regarde sur l'écran, on écoute, on regarde le temps. Parce que c'est, en fait, c'est le loft, mes versions. Enfin, c'est quoi le nouveau truc à la mode les anges, là, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, moi, je suis génération du loft. Alors, je parle du loft, mais c'est le loft, mais version anesthésie. On apprend, on refait l'algorithme, il n'y a pas du tout de jugement. On s'engage d'ailleurs. Ce qui se passe dans cette pièce reste dans cette pièce. Et puis on est là pour apprendre avec bienveillance. Donc pour rassurer les gens.
C'est important.
Oui. Et puis on va à des congrès. On a pour obligation de se former. Ça fait partie du job, la formation continue.
Oui. Il y a de la formation continue. C'est très, très présent, et quel que soit le service. Et d'ailleurs, tiens, si ta maman, Patricia, écoute cet épisode, écoute, Patricia m'a dit, juste avant que je passe la CLS, qui est une formation aux gestes d'urgence, elle m'a dit à peu près ce que ta chef t'avait dit à l'époque. Elle m'a dit, t'as intérêt à revenir avec la formation, avec le certificat en poche, parce que derrière, on t'attend au soin intensif pour faire des nuits. Donc, tu vois, Patricia, je me souviens de cette phrase-là. Non, je rigole. Il y avait, bien sûr, possibilité que je n'obtienne pas le certificat, enfin, le diplôme à la fin, parce que voilà, c'est beaucoup de stress, c'est très challengeant. On est avec des personnes qu'on connaît pas, avec un matériel qu'on ne connaît pas. Et puis on est épié par trois ou quatre pères dieux qui nous regardent et qui épient tout ce qu'on fait. Et en effet, derrière, il y a toute une phase où on vient décortiquer ce qu'on a fait, où on débriefe. Bien sûr, les personnes, par exemple, si on est avec d'autres infirmiers, les autres infirmiers qui regardent cette situation, qui n'ont pas participé à l'exercice, eux ont toujours un regard, c'est plus simple hein, vraiment de voir ça d'un œil extérieur et de se dire « Ah, ma collègue aurait dû faire ça » qu'une fois qu'on y est, où c'est beaucoup plus difficile. Après, il n'y a jamais de catastrophe dans ces situations-là, mais on apprend à gagner du temps, à mieux articuler les choses, à mieux communiquer. Ça, c'est peut-être quelque chose que les gens n'imaginent pas non plus, mais voilà, tu t'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais s'il y a quelqu'un qui s'occupe des voies respiratoires, ben, cette personne, elle va s'occuper que des voies respiratoires. Elle va pas commencer à injecter des médicaments. Alors, on parle d'une situation où on est staffé, où il y a ce qu'il faut. Mais elles sont essentielles, ces phases de formation. En plus, les techniques médicales évoluent vite. Les recommandations évoluent aussi. Donc, c'est important de dire que ça existe, quel que soit le stade de sa carrière auquel on est.
Tout à fait. L'idée répandue, c'est que une fois que le patient il dort, il se passe rien. Et qu'on est les rois du café ou du sudoku, je sais plus comment que ça se dit, que en gros passer l'intubation, on peut aller au café. Alors c'est vrai que on voit beaucoup de relais dans la salle, c'est-à-dire qu'on se relaye beaucoup en anesthésie. On n'a pas besoin d'être deux dans le cockpit quand ça se passe bien. Et ça, c'est aussi... mais ça se justifie, c'est parce qu'on doit tellement être vigilant tout le temps qu'on a besoin d'aller s'oxygéner ailleurs. Et que, voilà, c'est, Je rigole, mais c'est vrai. Hein, on a pour obligation aussi de sortir. Alors, je sais que ce n'est pas possible partout et tout le temps, mais une bonne infirmière anesthésiste, elle a l'estomac plein et la vessie vide. Et là, c'est parti pour 12 heures sans problème, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, très important, les pauses. Et puis, comme un vol en avion, bah, y a des étapes critiques. Des fois, il y a des zones de turbulence qu'on apprend à gérer. Et puis, on doit constamment réajuster en fonction de ce qui se passe de l'autre côté du champ, parce qu'on est quand même là pour le chirurgien. Donc, il nous réveille quand même de temps en temps. Il faut bouger la table, la monter, la lever, à droite, à gauche, en haut, en bas. Tout ça, ça a des répercussions énormes sur le patient qui dort, mais qu'on surveille. Et puis, les journées, elles peuvent être très, très différentes selon le lieu d'exercice. On peut enchaîner des cas en endoscopie, par exemple, alterner les anesthésies générales avec les sédations. On peut courir toute la journée en garde quand on est au bloc d'urgence et puis qu'on enchaîne les catastrophes, qu'on est appelé aux urgences, qu'il y a un hélicoptère qui arrive, une ambulance qui amène des blessés. Et puis, au contraire, on peut rester sur le même cas pendant toute la journée, quoi, pendant 12 heures, quand c'est une longue chirurgie. Mais pendant ces 12 heures, bah, en fonction de la chirurgie, il y a aussi des fois où il y a des temps précis, on doit être deux absolument en salle, c'est obligé. Enfin, c'est obligé. C'est des moments qui sont à risque, on ne peut pas gérer seul, qu'on soit médecin ou infirmier. Des chirurgies cardiaques où il y a des temps très précis, où il faut être deux, ou une grève du foie, ou même une césarienne tant que le bébé il est pas dehors, il n'est pas sorti. Et puis, si au contraire tout se passe bien et puis que c'est quelque chose de simple, bon, on peut rester tout seul, tout le long de l'intervention, on peut gérer, adapter l'anesthésie, les paramètres, redonner un peu de ci, un peu de ça, faire la cuisine, en fonction des étapes qu'on connaît, qui sont attendues, puisqu'on doit suivre un minimum les étapes de la chirurgie. Et puis, on peut même réveiller tout seul en tant qu'infirmier anesthésiste, extubé avec un médecin qui est à portée de voix et qui est prêt à intervenir si besoin. Après, évidemment, si on n'a pas d'expérience, si on le sent pas, la première qualité en anesthésie, c'est d'appeler à l'aide, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Sinon, on est en danger et c'est pas bien. Donc, savoir reconnaître ses limites, savoir appeler à l'aide, c'est le béaba. Donc, si on ne sent pas, moi, par exemple, je déteste réveiller quelqu'un que j'ai pas endormi, mais bon, j'ai pas le choix parce que ça arrive quand même relativement souvent. Une personne, elle se réveille comme elle s'est endormie. Si elle s'endort calmement, elle se réveille très calmement. En principe, le jeune en bonne santé, là, celui qui est bien bien excité quand il s'endort, bah alors lui, c'est chaud d'être seul pour le réveiller. Le premier réveil, les gens, ils s'en souviennent pas. Ça, il faut le dire aussi. Les gens, ils se disent toujours, non, je me suis réveillée dans ma chambre ou je me suis réveillée au réveil. Non, il y a un premier réveil qui est dans la salle. Les gens ne s'en souviennent pas. Ils se souviennent du deuxième réveil en salle de réveil. Et puis des fois, je voulais dire aussi, des fois, on est très loin physiquement du patient. On n'a pas accès, suivant la chirurgie, des fois, on est au pied du patient. Au pied littéralement, c'est-à-dire qu'on ne voit que ses pieds, puisque par exemple une chirurgie de la tête, du cou, une autre chirurgie qui se passe plus haut dans le corps, donc on va mettre des kilomètres de fil, de rallonge, des fois il se passe des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on sait puisqu'on a tous ces appareils de surveillance. Et y a une frontière entre nous, il y a une frontière physique qui s'appelle le champ opératoire entre l'équipe de chirurgie et l'anesthésie. Mais des fois, il se passe, il croit qu'on ne suit pas et qu'on ne voit rien. On a des surprises qu'il faut gérer, des tubes qui se déconnectent. Vas-y, l'air de rien, il rebouche le truc. Mais en fait, non, ça... Alors, on lève quand même la tête, on dit « qu'est-ce qui s'est passé là ?» Et puis, des fois, on a des surprises. Et puis, à l'inverse, des fois, l'équipe de chirurgie ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe et que le patient, il est, on le tient par un fil. Je pense, quelqu'un qui s'agite, qui est très agité, qui ne dort pas et qui est très, très angoissé, puis qu'il va falloir intuber en catastrophe. Les gens, de l'autre côté du champ, des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont tellement, mais c'est normal d'ailleurs, hein, et heureusement, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font. Mais l'équipe d'anesthésie, on fait pas beaucoup de bruit en fait. On fait les choses calmement. Il y a pas de, il n'y a pas de mot plus haut que l'autre. Enfin, des fois, évidemment, il y a des exceptions. Et puis, l'ambiance, elle est aussi très, très différente selon les salles, selon les chirurgiens. Des fois, un bloc opératoire, c'est comme une ruche. C'est comme comme une fourmilière. Chacun qui a un rôle bien, bien précis. Des fois, c'est très calme. On entend juste le bip du scope. Et puis, des fois, il y a de la musique. Des fois, ça plaisante. Et puis des fois, bon, bah, c'est la guerre, n'ayons pas peur des mots. Des fois, c'est speed, ça court partout, c'est l'urgence. Et puis là, ce qui est important, c'est de, si le patient ne dort pas, je pense à, tu sais, une prise en charge en urgence, une césarienne inattendue. Ce qui est important, c'est de capter l'attention du patient pour pas qu'il parte n'importe où. Pas physiquement, mais disons dans sa tête, et que pour l'accompagner en fait dans un endroit plus sympa, et puis qu'il garde un meilleur souvenir possible et qu'il ressorte pas traumatisé de cet événement, parce que ça peut créer des vrais vrais traumatismes. Et c'est là que l'hypnose intervient et puis est très utile.
Bon bah super. Bon alors du coup pas de regrets suite à cette formation. Donc au bout des 2 ans tu ressors donc diplômé. Et tu deviens IAD, donc infirmière anesthésiste diplômée d'État.
Tout à fait. Je commence à travailler au bloc d'urgence. Donc, c'est un bloc qui est ouvert 24 heures sur 24, où on fait toutes les chirurgies possibles, y compris les greffes, y compris... on intervient aussi dans le service des urgences de l'hôpital quand il y a un hélicoptère qui arrive sur le toit ou une ambulance, parce qu'il y a toujours un anesthésiste, et puis on nous appelle aussi pour gérer la situation du patient instable quand il arrive aux urgences, pour être garant des voies aériennes, et puis gérer la ventilation si le patient il est intubé. On est aussi les transporteurs pour aller au scanner, pour aller aux soins intensifs, pour aller en angiographie, pour aller voir les vaisseaux du cœur, pour aller voir, pour faire de la radiologie interventionnelle, puisque j'ai entendu quelqu'un témoigner à ce sujet.
Ouais.
Voilà. Et puis des fois même, il y a des enfants qui n'ont pas le temps d'arriver en pédiatrie et qui arrivent sur le toit chez les adultes. Voilà. Donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé dans ce service avec aussi de la chirurgie générale, thoracique, cardiovasculaire, digestive et orthopédique. Ça, c'était mes 2 premières années. Ensuite, je travaille dans un établissement qui, encourage, enfin c'est même pas un choix, on doit tourner, la polyvalence. Donc j'ai dû changer. D'accord. Et puis les 7 années suivantes, j'étais au bloc ORL, qui fait de la chirurgie tête et cou, donc la neurochirurgie, de l'ORL, de la chirurgie plastique, reconstructrice. Et réparatrice, un bloc ambulatoire où on fait de l'orthopédie, de la chirurgie de la main, et tu sais, c'est ces blocs où le patient, ils arrivent la veille ou le jour même de l'intervention, et puis ils repartent après, donc c'est des gens qui sont particulièrement stressés. Et puis, c'est là que j'ai décidé de me former en hypnose, hypnose douleur aiguë et anesthésie. Suite à un congrès, je suis allée en 2014 assister au congrès de l'ASFAR à Paris, la Société française d'anesthésie et réanimation. Puis là, j'ai flashé sur un médecin anesthésiste qui a littéralement hypnotisé toute la salle. Et j'ai dit, c'est avec lui que je veux apprendre. Donc, je suis allée me former.
Ça
a complètement changé ma pratique. J'ai appris à parler différemment, à utiliser des mots positifs. Je pense que comme moi, tu as appris quand à l'école d'infirmière on nous disait qu'il fallait prévenir le patient de tout ce qu'on faisait. Bon, ça a déconstruit tout ce que j'avais appris. Le patient, il faut l'emmener ailleurs, en fait. Il faut lui faire penser à quelque chose d'autre. Et puis c'est quand tu maîtrises les gestes techniques que tu peux ensuite te concentrer sur autre chose et apprendre à parler.
Je rebondis sur ton mail, tu m'avais écrit « Je suis passionnée et je suis prête à relever le défi du témoignage à cœur ouvert. Teasing, et c'est ce qui m'a donné envie de te répondre du coup, ça parle de polyvalence. On nous appelle les couteaux suisses de l'hôpital, de beaucoup de rires, de drames, de cocasseries et de choix de vie, et de seconde vie professionnelle depuis un an. Mais le cœur et l'âme sont toujours restés en anesthésie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Aïe ! Aïe, tu as révélé la faille.
Non, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui t'a fait peut-être changer de chemin, ou temporairement, oui. Ou peu importe.
Bon, après mon congé maternité, j'ai dû changer de nouveau de secteur après ces 7 années à faire de l'anesthésie non conventionnelle qui était mon domaine de prédilection, où j'étais en contact avec plein de spécialistes différents qui ne sont pas des chirurgiens, avec les gastro-entérologues, avec les dentistes, les pneumologues. C'était une ambiance très très différente du bloc opératoire. Et puis j'ai dû changer de secteur, parce que c'est comme ça. Donc je suis allée à la maternité, c'était le dernier secteur que j'avais pas exploré à l'hôpital, et ça comprenait aussi la pédiatrie. J'avais beaucoup d'appréhension d'aller en pédiatrie. Donc suite à mon congé maternité, je reviens et puis j'intègre ce service, ce secteur, et puis donc qui est géographiquement en dehors du bâtiment que je connaissais avant. Donc c'était un gros changement déjà, et puis en fait mon intégration en pédiatrie s'est jamais faite parce que la crise Covid est arrivée, donc j'ai dû j'ai continué à faire de l'anesthésie à la maternité pendant que 80% de mes collègues étaient partis aux soins intensifs. C'est là qu'on nous a surnommé les couteaux suisses, on a fait preuve pendant le long mois d'une extrême adaptabilité. On avait nos plannings à la semaine. On ne savait pas où est-ce qu'on allait travailler des fois le lendemain. On a transformé des blocs opératoires en salles de réveil. On a transformé des salles de réveil en lits de soins intensifs. On allait géographiquement aux soins intensifs. Moi, je suis restée en anesthésie. J'ai continué à faire ce que je savais faire, mais d'une manière... c'était dégradé en fait. Tout ça pour dire, on a vraiment redoublé d'adaptabilité en fait. Et c'est le chef des soins intensifs lui-même qui nous a appelés comme ça les couteaux suisses. Et je pense que tous les infirmiers ont eu à redoubler d'adaptabilité, mais en particulier vraiment les infirmiers anesthésistes parce que on peut aller partout. Et puis, on est le service le plus transverse de l'hôpital. On se déplace littéralement partout. On intervient partout. Voilà. Et puis, ma petite, elle est rentrée à l'école. J'ai continué à me former en hypnose. J'ai passé un diplôme universitaire d'hypnose et médicale et thérapeutique à Grenoble en 2020. Et puis, je cherchais un peu à ouvrir, à élargir le champ, à sortir un petit peu du bloc opératoire. Je me suis installée une journée par semaine et je fais de l'hypnose maintenant une journée par semaine. C'était compliqué de demander à mon chef une journée fixe par semaine. J'avais 24 horaires différents en anesthésie. Vous avez bien entendu, 24 horaires différents. C'est ingérable quand on a des ambitions de vie. Et puis, je me suis dit, il faut que je me sorte de là. Et puis, les planètes se sont alignées. Ça ne m'est pas tombé tout cuit dans le bec, j'ai fait des démarches pour, mais j'ai eu la chance de un alignement spécial des planètes qui m'a ouvert les voies d'une consultation, d'un poste ambulatoire pour m'occuper de la santé des migrants. Donc je m'occupe de l'accueil des migrants et d'organiser leur suivi médical, toujours dans le même hôpital. C'est ça
C'est génial.
La nouvelle vie, c'est une nouvelle vie professionnelle, c'est une deuxième vie à laquelle je ne m'attendais pas du tout, moi qui pensais faire ma carrière en anesthésie. Et puis en fait, cette opportunité, je me rends compte qu'elle a été salvatrice parce que sans m'en rendre compte, en ayant le nez dans le guidon, dans un service qui était malgré tout en grande souffrance, qui a été accentué par la crise Covid. On a été mis pas mal à mal. Et puis, parce qu'une fois que la crise Covid était terminée, il fallait redoubler d'efforts, il fallait reprendre les activités opératoires. On n'a pas eu de répit, en fait, à ce moment-là. Et puis,
Voilà, j'ai retrouvé un rythme plus calme, de la bienveillance. Je travaille de 8h30 à 17h. Enfin, c'est le Graal pour une infirmière.
Ah, c'est super. C'est
au super. Bout de 20 ans de carrière. Et puis aussi, je m'occupe de gens qui sont plus malades et ça, ça change la vie. Ils sont en souffrance, mais je ne vois plus la souffrance physique, comme je l'ai vue pendant longtemps.
C'est ça quand on bascule aussi dans... Enfin, alors, dans la santé publique au sens large, mais on est sur un autre domaine de compétences. Mais du coup, c'est marrant, la boucle est un peu bouclée parce que l'humanitaire, t'avais beaucoup plu pendant les études. Et puis finalement, je trouve qu'il n'y a pas de hasard dans ton parcours. Et comme tu dis, la crise Covid, elle bouscule tout. T'as un équilibre perso derrière qui était probablement complètement...
Bancale.
Enfin, qui a complètement foutu le camp, bancal, la naissance de ta fille, enfin, ça fait beaucoup de paramètres qui font qu'on a envie probablement d'envisager sa vie professionnelle différemment, et c'est la beauté du métier, enfin, je pense que je le prouve assez avec tous les épisodes sur le podcast, mais voilà, on peut changer de voix, on peut s'intéresser à d'autres choses, et puis ça veut pas dire que... les portes qui se ferment derrière nous ne se rouvriront jamais. C'est beau de réussir à se réinventer comme ça.
C'est une pause.
Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement.
Voilà.
Bon, bah, super. Un grand merci, Estelle, pour cette belle présentation du métier. Et puis, bravo pour ce changement de carrière et l'hypnose. Alors moi, je n'ai jamais fait de formation de ce côté-là, mais... c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup, beaucoup intriguée pour l'avoir vu auprès d'un médecin dans la clinique dans laquelle j'exerçais, qui était très intéressé par ce domaine-là. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.
Oui, tout à fait. C'est le futur. C'est l'avenir.
Ouais, c'est ça. C'est bien. Eh bien, génial, Estelle. On va finir par le petit portrait chinois. Tu sais que j'ai encore quelques petites questions à te poser. Oui. Pour en savoir encore plus sur toi, la première question, c'est que dirais-tu à la Estelle d'il y a 10 ans?
Je lui dirais patience. Tout vient à point qui sait attendre.
Très bien. Question suivante, plutôt cantine ou lunchbox?
Lunchbox, sauf grosse flemme.
Un joker pour les jours de flemme. Voilà. Question suivante, qu'est-ce que tu as appris pendant l'exercice de ta profession et que tu n'avais pas appris pendant tes études?
À rester moi-même et à utiliser l'humour, quelles que soient les circonstances. Parce que l'humour, c'est une arme redoutable. Et à gérer les émotions des patients aussi.
Question suivante, la chanson qui te booste quand tu as un coup de mou?
Alors, c'était difficile d'en choisir une, mais j'ai choisi Sunny. C'est la version de Marvin Gaye, mais un petit peu remixée par Baumon, B-A-U-M-O-N. Je vous la recommande.
Ah, je vais aller écouter ça tout de suite parce que je ne connais que la version classique que j'aime beaucoup. Je vais aller écouter ça juste après. la question suivante, la plus belle phrase qu'un patient t'ait dite?
Là aussi, ça a été difficile, mais j'ai retenu celle-ci. Merci de m'avoir tenu la main.
Oh, ah, c'est bon. Question suivante, ton meilleur fou rire au travail?
Alors, j'ai fait une blague téléphonique à une interne d'anesthésie quand je travaillais au bloc d'urgence. Elle avait le bip de l'organisation. Donc, littéralement, c'est le bip qui sonne toutes les minutes pour tout, pour n'importe quoi. Elle coordonne toute l'organisation du bloc, tout ce qui se passe en dehors, au niveau des urgences. Elle reçoit les coups de fil des chirurgiens, des infirmières, de tout le monde. C'est une personne que j'aimais particulièrement. Elle n'est plus de ce monde, c'est pour ça que j'en parle au passé. Et je me suis faite passer pour une infirmière d'une unité de l'autre bout de l'hôpital. Type réhabilitation, enfin tu vois, géographiquement très très loin, et je l'appelle en lui disant que, très sérieusement, que les toilettes de mon unité sont bouchées. Alors là, avec son accent italien à couper au couteau, elle me dit « mais vous savez qui je suis, pourquoi vous m'appelez moi ?» J'ai dit « bah oui, vous êtes la garde d'anesthésie, non ? C'est vous qui gérez tout, non ?» Et là, bon, j'ai pas pu me retenir longtemps, mais elle était tellement crédule. Enfin, c'est extraordinaire. Et voilà, alors, ça rend peut-être pas aussi bien là quand on l'écoute, mais quand on vit la situation. Et puis après, de la raconter, parce que ça a fait tache d'huile, évidemment, après. Et, donc ça, c'était un énorme fou rire, voilà. Et, Et voilà. C'est très potache. Hein,
ouais,
voilà.
Mais on a besoin de ça aussi. Désolée. Au quotidien pour bien rigoler. Non, c'est très bien. Et la question voilà. suivante, et la dernière question, un titre de film qui résume ta carrière.
Alors, je ne savais pas si c'était un film qui existait ou pas, donc j'en ai inventé un. Enfin, peut-être qu'il existe, mais « Rien n'est impossible ».
Très bien.
Et je profite pour parler d'un film qui s'appelle « Ma voix t'accompagnera », qui est réalisé par Bruno Trac, qui est disponible sur Netflix, je ne sais pas pour combien de temps, mais en ce moment en tout cas, qui est un documentaire qui suit le quotidien de deux hypnotistes anesthésistes belges. J'ai eu la chance de les avoir en formation et elles sont extraordinaires. Et puis ça donne précisément l'idée du quotidien de l'anesthésiste qui hypnotise les gens au bloc opératoire. Donc je le recommande.
Très bien. Ah ben moi je vais regarder ça dès ce soir. Je vais aller le mettre sur ma liste tout de suite. Génial. Un grand merci Estelle. Et alors du coup je me permets un petit message perso, mais embrasse Patricia pour moi.
Mais j'y manquerai pas. Et merci à toi de m'avoir donné la parole. C'était vraiment important pour moi de le faire et j'espère sinon avoir suscité des vocations, en tout cas peut-être éclairci le monde de l'anesthésie.
Le monde très obscur de l'anesthésie, mais ça j'en suis certaine. Et puis pour voilà plein d'aspects pratiques, merci encore pour l'analogie copilote-pilote parce que vraiment, je te jure, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'essaye d'expliquer et juste cette analogie est absolument parfaite. Donc merci pour tout ça Estelle, je te souhaite bonne continuation dans tes projets, un très bel avenir, quel que soit ce vers quoi ça te mènera d'ici quelques années, mais maintenant t'as un vrai couteau suisse entre tes mains en tout cas pour faire plein de choses.
Ça c'est sûr, merci à toi Marielle.
À bientôt Estelle.
Merci, au revoir.
Un grand merci à Estelle pour son temps et pour cet échange passionnant. Ce qu'Estelle a oublié de vous dire, c'est qu'elle est aussi une couturière hors pair. Je vous glisse en description de l'épisode un lien vers sa boutique en ligne, sobrement intitulée Les Calots d'Estelle, où elle propose toutes sortes de couvre-chefs pour le personnel médical. À très bientôt pour un nouvel épisode.